7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
S'il est un sujet qui divise, c'est bien celui de la chasse. En interdisant pour cette année la chasse à la glu pour les grives et les merles, Emmanuel Macron a arbitré en faveur des défenseurs de l'environnement une décision qui n'est pas du goût des chasseurs. Que représentent les chasseurs pour le pouvoir politique et quelles relations ces deux mondes entretiennent-ils? Bonjour Christophe Baticle.
Bonjour Guillaume Erner.
Vous êtes socio-anthropologue et chercheur. Vous enseignez à l'université de Picardie Jules Verne à Amiens. On compte aujourd'hui environ 1 million de chasseurs alors qu'ils étaient 2 millions environ en 1975. Que s'est-il passé en près de 50 ans et qui sont les chasseurs aujourd'hui, Christophe Baticle?
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, le rapport à la nature change dans nos sociétés et que finalement, ce rapport assez âpre que décrivent et que pratiquent les chasseurs est un rapport qui tend à diminuer. Il y a aussi d'autres explications, bien évidemment, le coût de la pratique, la difficulté d'accès à certains territoires. Et d'une certaine façon, si on voulait faire un profil du chasseur, je pense que le plus intéressant, ce serait de s'intéresser au mode de chasse. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis. Dès le début du XXe siècle, un anthropologue comme Marcel Mauss nous expliquait que on ne va pas à la chasse, on va à la chasse aux lièvres. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que le mode de chasse est tout à fait déterminant pour essayer de comprendre ce rapport à la nature.
Et alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les différents modes de chasse, ou plutôt quelle typologie pourrait-on faire en matière de chasseurs, Christophe Baticle?
Alors si on s'intéresse par exemple à des modes de chasse qui ont été construits comme modes de chasse relativement récemment, mais qui historiquement étaient des modes de piégeage, qui étaient plutôt où on cantonnait notamment les femmes et les enfants, je pense à la glu, mais je pense aussi à d'autres pratiques telles que les tendelles. On a affaire à des personnes...
Pourquoi Christophe Baticle? Parce que là, c'est un vocabulaire pour initier. Les tendelles, la glu donc, qui vient d'être interdite, qu'est-ce que ça crée comme rapport à la chasse? Quelle catégorie de chasseurs est impliquée dans ce type de chasse?
Alors, les tendelles, pour les décrire en quelques mots, c'est un système où, d'une certaine façon, l'oiseau est assommé par une pierre, donc est tué sur le coup, et on a affaire, finalement, à un piégeage, plus qu'à un mode de chasse actif. Alors, le profil, ce sont des gens qui entretiennent un rapport au territoire local extrêmement étroit, c'est ce qui les caractérise le plus, et ce sont des personnes, finalement, qui ont été socialisées à ce mode de chasse, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui un mode de chasse, très très jeune.
D'accord. Et donc si on essaye de voir quelles sont les autres catégories de chasseurs, Christophe Baticle, qu'est-ce que l'on observe?
Alors on observe d'abord après la Seconde Guerre mondiale une montée en puissance des classes populaires dans les pratiques de chasse, un mouvement qui serait en train de se retourner d'un point de vue relatif, puisque la diminution du nombre de chasseurs, vous l'avez soulevé, vous avez dit 2 millions et même 2 400 000 hein, en 1974, finalement on voit que d'une certaine façon, mais ce sera confirmé, les ouvriers se désinvestiraient un peu plus et les employés par rapport à la partie haute de la stratification sociale.
Et en termes de classe d'âge, cette fois-ci?
Alors, on a affaire à un public qui vieillit, on a affaire à un public qui rencontre des difficultés pour se renouveler. C'est le cas effectivement dans l'ensemble du monde associatif, mais ici c'est particulièrement accentué.
Et on peut imaginer que l'idée que la chasse est aujourd'hui au cœur d'un certain nombre de controverses va encore amenuiser la proportion de jeunes attirés vers cette pratique?
Alors ça, c'est loin d'être évident. Tout va se jouer au niveau d'une solidarité qu'on avait vu s'établir dans les années 1980. À la fin des années 1980, on a l'introduction des chasseurs dans la politique. Évidemment, la chasse a toujours été une question éminemment politique,
Le
relevé du politique, bien sûr. Je pense que même au paléolithique, sur la manière d'organiser la société, et il va de soi que la chasse est une question éminemment symbolique, mais aussi extrêmement politique. À la fin des années 1980, en France et également en Italie, mais d'une façon un peu marginale aussi aujourd'hui en Espagne, on voit effectivement les chasseurs entrer dans le politique, avec un parti politique notamment qui était le Chasse, Pêche, Nature et Tradition, qui avait passablement fait parler de lui, notamment au premier tour de la présidentielle de 2002.
Mais oui, il avait fait un très bon score. Il
avait fait un score, alors qui était surtout très original. C'était du jamais vu dans l'histoire de la géographie politique. C'est ce qu'Hervé Lebras avait appelé l'effet baie de Somme, puisque la baie de Somme en avait été une véritable caractéristique. Un vote qui, au niveau national, était relativement réduit, puisqu'on était en dessous de 5% des suffrages exprimés, mais parfois avec des majorités relatives sur des ensembles de cantons qui étaient situés sur des zones à enjeu, telles que la baie de Somme ou une partie de l'Aquitaine.
Bon, ça veut dire aussi que politiquement, les chasseurs pèsent, ils votent comment aujourd'hui, et on voit au gré des décisions de l'exécutif que, bien évidemment, il y a une tentative d'attirer à la fois les chasseurs, mais aussi de ne pas mécontenter les défenseurs des animaux, Christophe Baticle.
Alors, évidemment, on a peu de données, puisque les sondages à la sortie des urnes qui essayaient d'interroger cette dimension-là sont assez anciens maintenant. Ce qui est certain, c'est que pour avoir travaillé beaucoup sur certains modes de chasse investis par les classes populaires, on a affaire à une montée de l'abstention qui est maintenant ancienne. Autrement dit, on avait affaire à des publics qui votaient à gauche pour ce qui concerne ces modes de chasse et qui aujourd'hui sont plutôt tentés par l'abstention.
Ça veut dire que lorsqu'Emmanuel Macron prend la décision, par exemple, d'interdire la chasse à la glu, il se dit que les chasseurs votent moins, s'abstiennent, et qu'il vaut mieux peut-être eh bien satisfaire les revendications des défenseurs des animaux. Est-ce qu'il pourrait y avoir ce type d'arrière-pensée, Christophe Baticle ?
Alors là, par contre, ce serait un calcul qui serait risqué, dans la mesure où, comme je vous le disais, à la fin des années 1980, on a affaire à une union de certains modes de chasse, notamment les chasses aux migrateurs, et ça aboutit à une montée en puissance politique et donc à l'émergence de ce parti. Autrement dit, on pourrait très bien imaginer aussi, mais encore une fois, il ne s'agit pas de jouer les Cassandres, on pourrait très bien imaginer aussi qu'on ait un retour de la chasse dans la politique.
Oui, parce que on a vu que c'était une question effectivement à rebondissement à l'avenir. Qu'est-ce que l'on peut imaginer en quelques mots, Christophe Baticle ?
Ce qu'on peut imaginer, mais encore une fois, là, il faut être extrêmement prudent. C'est deux scénarios qui seraient de pôle hein, de ce qu'on pourrait imaginer. Premièrement, une baisse finalement du nombre de chasseurs qui sera accentuée par un sentiment d'être mis au pilori en permanence. Mais on pourrait aussi imaginer une réaction qui serait justement autour de ces modes de chasse où on a affaire à des hommes qui sont particulièrement investis. Je pense aux chasses aux migrateurs en particulier, ou notamment aux anatidés, c'est-à-dire tout ce qui concerne les chasses aux canards, les chasses aux oies, où il y a depuis effectivement une quarantaine d'années extrêmement beaucoup de polémiques et beaucoup de tensions sur ces questions-là.
Merci beaucoup Christophe Baticle, et je crois que vous êtes en train de préparer un livre sur l'étendelle justement, ce qui nous permettra de mieux savoir de quoi il s'agit. 7h22 sur France Culture.